Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, quel plaisir de passer cette petite heure en votre compagnie comme chaque week-end, c'est De quoi je me mêle, à la fois, donc vous le savez, à la radio, à la télé, sur BFM Business, samedi et dimanche, mais aussi sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs, Orange, SFR, Free, Bouygues, et sur la chaîne YouTube de Tech & Co, voilà, vous ne pouvez pas nous rater. Avec au sommaire, pour ce De quoi je me mêle, tout à l'heure, Lionel Costa, le responsable du développement du Labo Fnac, sera avec nous. Vous avez envie de vous offrir une petite enceinte Bluetooth, Wi-Fi, quel modèle, quelle taille, pour équiper quelle pièce aussi, c'est important. Eh bien, Lionel Costa vous donnera tous ses conseils et tous les conseils des ingénieurs du Labo Fnac qui ont testé les principales enceintes. Je vous rappelle le hashtag DQGMM si vous voulez nous suivre sur Twitter. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et si on commençait par le club de la presse IT, voilà, je vois que tout le monde lève le doigt, alors on y va. Anthony Morel est là, bonjour Anthony.
Bonjour François, bonjour à tous.
Après cette petite semaine de break, nous voilà de retour. Voilà, alors c'était pas à cause de toi, c'était nous, mais on est ravis de vous retrouver avec l'actu cette semaine. Et à tes côtés, c'est Mélinda d'Avant-Soulas qui est là. Bonjour Mélinda.
Bonjour monsieur.
Anthony, BFM Business, Mélinda, la rédaction Tech & Co.
Est-ce qu'avant de commencer l'émission, je peux dire une petite chose François?
Mais bien sûr, tu peux dire tout ce que tu veux.
Je veux dire que je suis un petit peu... intimidé et impressionné aujourd'hui.
Est-ce que tu as Mélinda en face de toi?
Alors c'est pas à cause de Mélinda, Mélinda m'impressionne toujours, mais c'est surtout à cause de toi, parce qu'on est quand même en présence du top tech influenceur de l'année. Il faut le dire, François, il faut le dire, il y a un classement des influenceurs.
Vous avez préparé tout le truc et tout,
c'est super, magnifique. Devant Thomas Pesquet, c'est quoi ça?
C'est ça qui me fait un peu douter quand même, des trucs, parce que je me dis...
Plus haut que Thomas Pesquet.
Thierry Breton, Cédric O,
bref. Non mais blague à part, c'est le patron. C'est le patron, il faut le dire.
C'est pour ça qu'on t'écoute religieusement.
Félicitez-le dans les commentaires, s'il vous plaît.
Arrêtez un peu. Je suis un peu gêné. Mais alors sincèrement, moi, je vais vous dire un truc. C'est ce classement, et puis on va pas en faire deux heures. Bon. On prend ou on prend pas. Moi, je trouve que c'est pas très important. Et puis c'est un peu. Enfin voilà, un peu galvaudé. Mais ce qui est important, c'est que je pense que ça récompense aussi tout le travail qu'on fait tous, toute l'équipe de Tech & Co, avec la chaîne, avec l'émission le soir sur BFM Business, toi Anthony qui est depuis un an et demi dans De quoi je me mêle. Et voilà, et c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier à tous. Voilà, toute la rédaction. Non mais c'est vrai, finalement, c'est ça. On porte l'actu tech et c'est vrai qu'on essaie de tous les jours de le faire le mieux possible. L'actu, donc, on va commencer par Neuralink, tiens, Elon Musk, vous savez qu'Elon Musk a plein de dossiers sur son bureau, alors là, il a un truc comme ça.
Qu'est-ce que je prends aujourd'hui?
Ça c'est Twitter.
Oui, Twitter c'est ça,
Ça c'est Twitter, bon style. Tesla c'est un peu plus bas là, en ce moment, bon il a SpaceX, Starlink, il en a partout.
Il a ressorti un truc d'un tiroir, il dit, attends ça fait longtemps ça, je n'ai pas raconté de trucs là-dessus depuis longtemps, allons-y.
C'est clair.
Et Neuralink donc, avec une annonce là, incroyable, qui est toute fraîche.
Écoute, c'était cette nuit, donc là on enregistre, on est jeudi matin, et effectivement alors c'était organisé depuis quelques mois, il avait dit on fera un show and tell, donc une démonstration des nouveautés de Neuralink. Neuralink, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le projet peut-être le plus fou d'Elon Musk, celui qui est le plus vertigineux, c'est-à-dire ce projet qui vise à implanter des puces dans notre cerveau pour nous permettre de communiquer, de nous relier en fait à des ordinateurs, de communiquer, d'interagir autrement avec la machine, en gros de devenir des humains augmentés. Et là ce qu'il a montré, alors il a fait des petites démonstrations cette nuit, et surtout il a fait une annonce, il a dit... Nous, on est prêts, la technologie est prête, on veut implanter ces puces dans l'être humain d'ici 6 mois. Donc, ce n'est pas pour dans 10 ans, c'est vraiment, voilà, on est prêts. Ils ont posé sur la table de la FDA, l'autorité de régulation de la santé aux États-Unis, un dossier, donc tout est prêt. Et ben voilà, on va pouvoir intégrer ces petites puces qui ont été testées déjà sur des animaux, donc il y a eu une truie.
Qui a fait jouer des singes aux jeux vidéo.
Voilà, on se souvient de cette vidéo qui était dingue, on voyait ce singe.
Sans le manette, sans rien.
Exactement, en se concentrant sur l'écran, il jouait à Pong, et donc la balle bouge de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, grâce à cet implant électronique qui va en fait capter les signaux électriques envoyés. vous
êtes avec
cerveau.
Nous à la télé, vous le voyez là.
Exactement. Voilà. Il s'appelle Paige, si je dis pas de bêtises. Ce singe, alors il a un tuyau dans la bouche. Vous vous demandez peut-être pourquoi. C'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'il joue bien, on lui envoie du jus de banane.
Et voilà,
c'est pour avoir la récompense.
C'est pour le motiver.
Exactement.
Enfin, et moi, cela dit, on m'envoie du jus de banane. Je joue à Pong pendant des heures.
C'est un peu ma vie rêvée là. La vie de ce singe.
Pas de problème.
Attends, jouer à Pong sans manette avec du jus de banane dans la bouche, je peux te dire, mais c'est
un peu moins poilu. Et à part ça, finalement.
Ouais. Alors effectivement, alors il a fait d'autres démos là cette nuit avec d'autres singes. Qu'on voyait par exemple activer le curseur d'une souris sur l'écran de l'ordinateur, même chose en se concentrant, ou même écrire un texte, ou en tout cas activer un clavier, parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il écrit, ça sera peut-être pour la future version de la puce, mais en tout cas il appuie sur les touches virtuellement, là encore en se concentrant sur les touches, donc c'est assez dingue. Et donc l'idée ensuite, ça va être d'intégrer ça sur un être humain, avec la potentialité que, bah, par exemple pour une personne paralysée, tu pourrais communiquer de manière beaucoup plus facile, puisque en dictant, en pensant à une phrase, tu pourrais finalement la retranscrire sur l'écran. Ça, c'est la partie médicale que met en avant Elon Musk. Il dit aussi qu'on pourrait, par exemple, permettre à des personnes paralysées de retrouver le mouvement, des personnes qui ont perdu la vue, de retrouver la vue. Enfin, il y a une dimension d'espoir médical absolument incroyable. Et avec derrière, quand même, l'idée, et là, c'est là où ça devient à la fois fascinant et un petit peu effrayant, qu'on pourrait aussi doper nos capacités intellectuelles, c'est-à-dire booster notre puissance cérébrale en nous permettant d'interagir beaucoup plus vite avec la machine pour, nous, les êtres humains, rester compétitifs face à l'intelligence artificielle. Ça, c'est le discours d'Elon Musk. C'est qu'en tant qu'espèce, les êtres humains, si on veut garder notre rang, il va falloir qu'on dope notre cerveau avec ces implants électroniques. C'est quand même assez fou.
C'est vraiment, je sais pas ce que t'en penses, Melinda, mais ça donne le vertige. C'est sans doute le projet le plus, tu as raison, le plus ambitieux d'Elon Musk. Parce que, en fait, il y a deux choses intéressantes. Il y a le fait de télécommander quelque chose de par sa pensée. Donc, évidemment, pour les personnes en situation de handicap, ça peut être une vraie révolution. Parce que si on arrive à commander une machine de par la pensée, peut-être que dans 10 ans, on arrivera à faire marcher des gens qui n'arrivent pas à marcher.
Exactement.
Voilà.
Le potentiel, justement, sur tous les handicaps, il est énorme. On sait déjà tout ce qui fonctionne par système d'envoi d'ondes électriques pour retrouver des sensations. Donc là, il y a un projet qui est là-dessus qui est complètement fou. Il y a aussi une dimension qui, moi, me fait peur quand on voit Elon Musk en ce moment, c'est tout ce que tu dis derrière sur l'augmentation des capacités intellectuelles. Et c'est là où je pense qu'il va falloir qu'il le cadre bien aux États-Unis. Il y a une promesse au niveau de la santé qui est énorme.
Parce que
sur le reste...
Je termine ce que je disais, parce qu'il y a donc cette première partie de télécommander quelque chose depuis son cerveau. Et puis la deuxième, qui elle là est vertigineuse, c'est de connecter une machine au cerveau pour peut-être, à terme, je ne sais pas moi, dupliquer un cerveau, enfin dupliquer enfin voilà, il avait évoqué ça aussi.
Il
y a la première partie, télécommander quelque chose, et puis la deuxième, peut-être arriver à stocker des données du cerveau. Et bien sur une machine.
Pourquoi pas, si on se projette à très long terme.
Oui, mais long terme.
En fait, c'est un peu ce qu'évoquait Melinda, c'est-à-dire cette frontière qui est très ténue et qui va nous ouvrir des boîtes de Pandore, j'allais dire, juridiques, philosophiques, éthiques.
Twitter à côté, c'est de la gnognotte.
C'est homme réparé, homme augmenté. Homme réparé, c'est on va utiliser la technologie pour réparer le handicap. Ce qu'on disait, c'est incroyable. Homme augmenté, on entre dans l'ère du transhumanisme, on entre dans des dimensions qui, quand même, pour le coup, peuvent effectivement effrayer. C'est-à-dire, alors, le discours d'Elon Musk, c'est intéressant ce qu'il disait cette nuit, c'est de toute façon, pour lui, on est déjà des cyborgs. C'est-à-dire que le smartphone, pour lui, c'est déjà une extension, si tu veux, de notre vie. C'est presque comme s'il était intégré en nous, quoi, si tu veux. Et donc, finalement, l'étape d'après, ce serait pas aller beaucoup plus loin que de s'implanter une puce dans le cerveau. Lui, c'est comme ça qu'il voit le truc, si tu veux. Et d'ailleurs, c'était aussi très intéressant. Il a expliqué un peu comment tout ça allait se passer. C'est-à-dire, il y aurait des cliniques Neuralink. Il a mis au point un robot implanteur, donc c'est une machine qui pourrait de manière totalement autonome trouver la bonne zone du cerveau. Alors il l'a montré sur un cerveau en caoutchouc, alors ce que ça donne en vrai évidemment.
Il prend moins de risques.
C'est plus facile, hein, évidemment. Ouais. Tu implantes le truc, alors l'implant fait la taille d'une pièce de monnaie, une petite pièce. Et une fois que tu as ça, alors il y a deux choses intéressantes, c'est que tu pourrais le recharger en wireless, donc je sais pas si on aura des casques à induction, tu vois, la nuit pour recharger
avec,
ton implant.
Avec, tu sais, les systèmes de recharge sans fil qu'on a vu dans les maisons, à 100 watts et tout, ça va être sympa.
Ça va être sympa, ouais.
Là, le cerveau va griller direct.
Les anti-ondes, les anti-5G, les mecs,
je pense qu'ils sont en PLS.
Et le deuxième truc intéressant, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc en gros, tu vas pouvoir effectivement avoir ce truc qui se recharge recharge à distance, ce qui est quand même assez fou. Et c'est ce qu'imagine Elon Musk.
Moi, ça
va quand même assez loin.
C'est sa partie savant fou qui me fait peur.
Ouais, bien sûr,
le côté, il a un rapport quand même à la machine qui est très particulier. On le voit à travers toutes ses inventions. Se détacher de la machine, avoir, comme on dit, le smartphone greffé à la main. C'est une chose, mais enfin, le smartphone, on peut le poser, on peut faire autre chose. Quand la puce, elle commence à être dans ton cerveau et qu'il veut, et que lui, dans son esprit, l'idée, c'est de la relier à un ordinateur, donc de faire un échange d'informations dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, avoir la main sur l'ordinateur, enfin, ou le cerveau sur l'ordinateur, c'est une chose, mais d'être capable qu'un ordinateur duplique ce qu'il y a dans ton cerveau, ouais. On commence à aller dans des zones extrêmement limites.
Incroyable, incroyable.
On va découvrir que peut-être en ce moment, s'il pète un câble comme ça sur Twitter, c'est parce que lui, il se les a déjà implantés et que ça marche pas terrible.
Attends, pour gérer tous ces dossiers en même temps, là, il a bien besoin d'une
machine. Non, mais juste un truc, c'est vraiment un programme en plus, un calendrier ambitieux. Qui va accepter d'être le premier à se faire implanter
là,
une puce?
Il est en train de ratisser sur Twitter.
Aucun problème. Alors, je suis sûr.
Mais est-ce qu'il a le droit de faire ça?
Alors, c'est toute la question. Alors c'est pour ça que
les autorisations de la FDA qui doivent
venir. Hein, donc on va voir ce que ça donne parce que ça risque quand même de bloquer à un moment. Peut-être, on verra. Mais alors pour trouver des volontaires, je pense qu'il n'aura aucun souci.
Ouais. Enfin,
tu sais, on avait. Alors tu vas me dire, c'est encore un autre niveau, mais on avait beaucoup parlé des biohackers. Tu sais, qui se font implanter des puces RFID sous la peau, qui leur servent de badge en entreprise ou pour les systèmes de paiement. Il y en a beaucoup dans les pays scandinaves. Beaucoup. Tout est relatif.
Et officiellement,
parce que tu as le droit et tout ça. Je pense que vraiment, avec en plus la marque Elon Musk, qui va être le premier, si tu veux.
Oui, bien sûr. Voilà, mais il va. Tu marques l'histoire.
Bah, exactement. Comme payer pour aller dans SpaceX ou tout comme ça. Les gens, c'est Elon Musk. Tu vas faire un truc avec Elon Musk.
Il a dit un dernier truc très intéressant aussi, c'est que ces puces électroniques, elles seront upgradables. C'est-à-dire que, en gros, tu pourras
faire des mises à jour de ton cerveau, c'est génial.
C'est génial.
L'image qu'il donne est pas mal.
Parfois, je me dis que moi, j'en aurais bien besoin.
Ouais, moi aussi.
Une petite mise à jour, tu vois.
On parle pas. Non, mais il dit, voilà, parce que si ta puce, en gros, c'est l'iPhone 1, quand t'as l'iPhone 14 qui sort, c'est un peu dommage de pas pouvoir la changer et l'upgrader, quoi.
Mais t'es ralenti aussi, ça se passe comment? Non mais blague à part, on rigole là-dessus. Il a quand même eu aussi des gros problèmes avec les associations de défense des animaux, parce que ses tests sur les singes, ça a été assez borderline et qu'il y a eu de la maltraitance. Donc on va quand même voir. 6 mois, ça me paraît extrêmement court, mais comme tu dis, je pense que là, rien qu'après son annonce, il a déjà 10 000 candidatures aux États-Unis en quelques heures. Moi, j'attends de voir, parce que je pense que les premiers intéressés vont être des gens pour être en homme augmenté et pas du tout pour des besoins de santé réelle. Donc, c'est un peu
on te propose de le faire, vas-y François. T'es le premier journaliste à pouvoir tester l'implant Neuralink.
T'imagines?
Pour un De quoi je me mêle exclusif. T'y vas ou pas?
Non. Sincèrement, j'y vais pas, non.
Moi non plus.
Non. Arrête déjà, pour une prise de sang, il faut que je m'y prenne 6 mois avant. Donc, imagine pour me faire implanter une puce dans le cerveau.
T'as 6 mois.
J'ai 6 mois pour préparer. Tiens, on reste dans le Elon Musk Land. Oui,
le Muskosphère.
Le Muskosphère, avec les derniers rebondissements concernant Twitter. Et notamment, c'est bien parce que là, on est à la fin de l'histoire. C'est ça qui est cool. Le début de la semaine a commencé, on va dire, difficilement pour Elon Musk et Twitter. D'un coup, on n'a pas compris pourquoi, Elon Musk avait comme bête noire Apple. Et notamment Tim Cook.
Ah ben on s'est dit oui, là ils passeront pas leurs vacances ensemble, clairement. Et c'est comme souvent avec Elon Musk, c'est tu te dis mais quelle mouche l'a piqué.
Ça part d'un coup sur Twitter et bim.
C'est ça. Mais vraiment, moi je suis arrivé au boulot, tu vois, comme tous les jours, je vais regarder les tweets d'Elon Musk parce que c'est mon petit plaisir du matin.
2 millions de plus de gens par jour viennent faire ça. Hein,
bah,
sur Twitter,
évidemment.
C'est quand même le truc qui est fabuleux.
Évidemment, c'est le meilleur VRP de l'entreprise qui vient de racheter, donc c'est pas mal de ce point de vue-là. Mais enfin, tu arrives et là une tirade de tweets contre Apple et tu te demandes pourquoi, mais une charge vraiment violente. Apple et pourquoi Apple veut censurer, c'est un ami de la censure, un ennemi des États-Unis. En gros, il reprochait plusieurs choses à Apple. Un, d'avoir voulu visiblement supprimer Twitter de l'App Store. Bon, première chose. Deux, d'avoir des demandes particulières de modération sur Twitter, donc d'être un ennemi de la liberté d'expression d'une certaine manière. Le fameux free speech. Trois, il remettait en cause aussi la fameuse taxe Apple, les 30% qu'Apple prend sur tout ce qui est vendu sur
Twitter. Là, il n'est pas le seul et c'est peut-être légitime.
Oui, non, bien sûr. Mais tu te demandes pourquoi ça sort comme ça.
Parce que, étant donné qu'il y a bientôt son offre Twitter Blue à 8 $,
oui.
Ça veut dire que si tu passes par Apple et par ton iPhone,
non, mais évidemment.
30%.
Je pense que sa colère, elle est, comme d'hab, très. Alors voilà, ça part d'un seul coup, mais il y a un fondement. Il est sorti de réunion, on lui a expliqué, parce qu'il veut relancer sa fameuse certification à 8 $. Et là, on lui dit, bah oui, mais alors 8 dollars, c'est pas, fais pas le calcul en X millions, c'est dans les caisses pour rembourser l'achat. Il y en a une partie qui part et chez Apple, et chez Google. Et là, il a pété un câble en se disant, attendez, les comptes sont pas bons. Et c'est pour ça qu'il s'en est pris.
Il a dû se dire, juste, je me suis trompé quand j'ai donné le prix à Stephen King. Je sais pas si vous vous souvenez. Au début, il avait dit 25 dollars.
Non, c'était 20 dollars.
Il s'est dit 8 dollars pour faire plaisir à Stephen King.
En fait, il pensait que c'était 8 dollars dans sa poche.
Il avait pas compté là.
Faudrait mettre 12 et puis en comptant la taxe Apple.
Ouais, c'est ça. Et puis celle de Google aussi, enfin celle qui va prendre partout. Ouais. Et donc, je pense qu'il a pété un câble pour ça. Derrière, il y avait eu, Phil Schiller, je crois, qui avait fait, avant de fermer son compte, qui avait dit, de toute façon, si ça continue comme ça, on va virer Twitter de l'App Store. Mais je pense qu'il a fait, ouais, il y a eu un moment dans son cerveau, ça, tu vois, ses puces se sont connectées, et il est parti là-dessus.
Il y a un deuxième élément, je pense, qui s'ajoute, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé, et la deuxième chose, c'est qu'il se trouve aussi qu'Apple a arrêté de mettre de la pub sur Twitter.
C'était un gros annonceur.
C'est le plus gros annonceur.
Les chiffres
donnés par le Washington Post, c'était que Apple représentait à lui seul 4% des revenus publicitaires de Twitter, et que c'était l'annonceur numéro 1.
Ah ouais.
Et que Apple, bah, comme beaucoup de grandes entreprises, est sorti, parce que Apple, comme beaucoup d'entreprises, c'est une entreprise très policée. Et donc, avoir ces pubs sur des contenus qui sont pas ou presque pas modérés, bah non, c'est pas possible. Et donc, je pense que ça aussi. Alors,
c'est l'argent. Le moteur de la guerre chez Musk, c'est l'argent.
Ouais, mais alors, aller gueuler sur ton principal annonceur parce qu'il part, je sais pas si c'est le meilleur moyen de le faire revenir non plus. Mais
alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un dénouement à cette histoire, un dénouement heureux, je vous rassure, parce que là,
vous commencez
à frissonner. Vous vous dites, mais comment va se terminer cette histoire, les amis? Alors, la bonne nouvelle, Anthony, c'est que Elon Musk a rencontré Tim Cook.
Ils se sont réconciliés. Apparemment, voilà. Tim Cook a...
Là, il faudrait une petite musique.
Ah oui, romantique. Là, il y a une musique.
Un Barry White. Exactement. C'est un truc comme ça.
Non, bah, cela dit, attends, moi, j'aurais bien aimé voir la rencontre. Ça doit être un truc de fou. Une réunion entre Tim Cook et Elon Musk, imagine. Waouh, ça doit être incroyable.
Deux des personnes les plus puissantes du monde se retrouvent.
Ouais, et puis, alors, des tempéraments.
C'est ça. Bah, visiblement, il a réussi à le calmer, Tim Cook, tu vois, comme quoi.
Mais c'est un.
Quoi qu'il le connaît un peu.
Je pense que c'est un faux calme. Et il a la réputation d'être justement dans les moments où il faut hausser le ton. Moi, je me souviens, vous souvenez quand il y avait eu les fuites et qu'il avait fait un mail et une vidéo pour les employés en disant le prochain qui balance des infos, en gros, ça va chier. Il rigole nettement moins, il est beaucoup moins posé et calme dans ces cas-là. Donc, je pense que Musk, il a dû arriver à la Musk, mais il a trouvé face à lui quelqu'un hyper froid, hyper décidé.
Tu crois?
Ah, je suis certain.
Ah, moi, j'aurais imaginé plutôt que, justement, tu vois, il était en mode hyper posé. Non, mais attends, Elon, on va se poser deux secondes.
Je pense que ça a dû être ça, mais déterminé.
Je vais te payer un petit chai latte. Vas-y. Détends-toi.
Ouais, les amandes ou les avoines? Qu'est-ce que tu veux?
Exactement.
Mais, et, c'est ça.
Tu vois?
Mais oui, parce c'est exactement. Bah,
mais en tout cas, c'est hyper marrant parce que du coup, il est ressorti. Donc, Musk a tweeté en sortant. Justement, il a fait
la
une
photo.
Petite. Ouais. Avec, tu vois, je sais plus, la fontaine. Voilà, c'est. Enfin, tu étais dans une ambiance très sereine, très zen et tout ça. Et là, tu sentais qu'il était calme. Quoi.
Ouais.
Et tu te dis, enfin moi c'est ce qui m'a intéressé dans cette histoire au-delà de l'anecdote, c'est le truc comment Musk gère son business. C'est-à-dire le mec il va bien en tête, il s'en prend à la plus grande entreprise du monde en trois tweets assassins, et puis deux jours plus tard, bah finalement non mais les gars on s'est expliqué avec qui.
Je filme la
fontaine.
Il m'a dit
qu'il était pas. Ouais, c'est ça. C'est l'effet de la fontaine magique. Mais enfin c'est dingue de gérer sa boîte comme ça.
Il doit avoir un dossier comme ça sur Elon Musk qui lui a dit si tu veux pas que je lâche les trucs.
Peut-être aussi. Ouais.
Mais non mais Musk il y a qu'une seule chose vis-à-vis de Twitter qui le motive, c'est l'argent. Il a ce problème, son problème numéro un avec Twitter, c'est l'argent. C'est pour ça qu'il liquide des salariés, c'est pour ça qu'il veut faire revenir du monde. Toutes ses décisions tournent autour de l'argent.
Oui, il faut que ce soit rentable au plus vite.
Le drame de son affaire avec Twitter, c'est qu'il s'est emballé sur le prix, et qu'il a été obligé de s'y tenir, et que si finalement il allait au bout de la procédure, ça allait lui coûter plus cher pour ne pas avoir Twitter, au final, n'oublions pas, que de sortir le chéquier.
Je ne sais pas si vous avez lu ça, je crois qu'il a perdu 100 milliards en 2022, en fait. La fortune d'Elon Musk
dingue.
Non, bah,
alors, dingue. 100 milliards.
C'est sûr que.
Parce que c'est des OS,
c'est un bon paquet.
C'est toujours pareil.
Mais même quand t'es hyper riche, tu perds 100 milliards. Alors, perdre 100 milliards, c'est évidemment la dévalorisation de toutes les boîtes, etc.
Ça reste une entreprise.
Il y a le rachat de Twitter et tout ce que ça a impliqué, etc. Mais bon,
c'est quand même 100 milliards. C'est un impact. C'est pas de dire maintenant il est pauvre, c'est pas ça.
Non,
mais
non.
Derrière, en fait, c'est cet argent-là qui sert aussi à financer tous ces projets complètement.
Bien sûr, bien sûr.
Quand tu dis je veux aller coloniser Mars, c'est plus facile quand t'as 200 milliards de dollars devant toi
que 100.
Que si t'en as, entre guillemets, que 50. Tu
vois, vraiment, c'est clair.
C'est un vrai truc.
C'est clair. C'est comme nous, en fait. Mais sauf que les échelles sont pas du tout les mêmes.
Oui, c'est ça. Moi, je vais acheter un Mars, moi. Je vais pas coloniser Mars. C'est plus du tout le même budget.
Je pense que c'est ça, avec Tim Cook, ils ont négocié que Apple revienne sans doute faire un peu de pub et lui promettre de prendre les choses un peu mieux en main. Mais évidemment que c'est l'argent, le nerf de la guerre.
Mais je pense que c'était surtout une réunion entre guillemets commerciale aussi, comme Elon Musk l'a fait il y a quelques jours de cela. Il est allé voir tous les annonceurs principaux pour dire, attendez, je vous rassure, là pour l'instant c'est en chantier, mais on va remettre tout en place et tout ira bien. Ouais. Et voilà, ça fait aussi partie de son job. Hein.
Il leur dit ça, c'est bien. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, allez, je ramène tous les comptes qui ont été suspendus, revenez tous.
Ah mais ça, il a pas menti sur la marchandise.
Oui, il l'a toujours dit.
Il a juste oublié qu'il avait dit qu'il créait un conseil de modération qui, à mon avis, ne verra absolument jamais.
Ah, tu crois ? Oh, je pense quand même.
Une fois qu'il aura ramené tout le monde et qu'il n'en aura pas besoin, je pense.
On verra, mais... Alors, par contre, sur les questions financières, il y a un truc intéressant aussi, c'est que là, on voit qu'il est, il a licencié massivement, des coupes, mais même un peu mesquines, tu vois. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça de la part d'Elon Musk, mais par exemple, il a commencé à tailler. Enfin, c'est des anciens salariés qui disent ça dans les tout ce qu'on appelle les perks, tu sais, dans la Silicon Valley, c'est ce qui est vachement important, c'est à côté de ton salaire, c'est la nourriture gratuite, par exemple,
les motivations,
les avantages hors salaire, quoi. Ouais. Et par exemple, la qualité de la nourriture à la cantine s'est détériorée visiblement. Il a changé de sous-traitant et c'est dans un salarié, je sais pas si, dans quelle mesure c'est complètement fiable, c'est des mecs qui mettaient ça sur Twitter et tout, mais visiblement tu vois des petits trucs comme ça, tu te dis bah attends, c'est Elon Musk quoi, tu vas pas gratter de l'argent sur les sandwichs quoi.
Je suis allé chez Twitter à San Francisco dans les locaux, c'était pas des sandwichs, c'est vrai qu'ils étaient pas mal,
c'était des trucs de fou.
Moi aussi j'y suis allé il y a quelques années, ils ont des cafettes,
ils ont des super cafettes, des espaces fous.
Bah maintenant ce sera sandwich pour tout le monde.
Bah voilà.
Et moi la cafette qui m'avait le plus impressionné, c'était celle de Facebook en fait.
C'est vrai.
Et c'était incroyable. Tu avais l'impression d'être dans un 4 étoiles, 5 étoiles, avec une immense cafette, mais un truc monstrueux. Tu avais carrément la moitié d'un étage c'est quoi, c'est Menlo Park
À Menlo Park, c'était à l'époque
ou ouais. Je sais plus. Enfin, bref, c'était en banlieue de San Francisco. Et là, tu te retrouves avec. Des cuistots toute la journée, 24 heures sur 24, parce que en fait Zuckerberg dit aux gens, vous venez quand vous voulez travailler, etc. Vous pouvez bosser la nuit si ça vous arrange, etc. Et une fois par semaine, parce que je sais pas si c'est encore le cas, tu avais le droit de venir avec ta famille manger.
Ah mais oui, mais ils font ça. Alors, je crois que chez Google c'est pareil aussi. Ils ont ce truc où tu peux venir une fois.
Tu peux venir,
dans les grandes boîtes américaines.
Par exemple, tu bosses et salarié, tu dis à ta femme et à tes enfants de venir. Ils te rejoignent et puis ils déjeunent tous ensemble.
Du coup, c'est d'autant plus intéressant, je trouve, ce que fait Elon Musk, parce que là, il va vraiment à rebours de ce que fait habituellement la Silicon Valley. Ah, c'est-à-dire vraiment, tu as ce truc. Moi, ça me fait penser à 300, tu sais, le film Sparta, tu sais, c'est genre, maintenant, c'est je vire tous les mecs qui sont pas nécessaires, j'enlève tous les avantages, et maintenant, les mecs qui restent, c'est vraiment le noyau hardcore.
C'est ça.
Vous allez mourir avec moi, on va au charbon
c'est
et on va se battre.
Sont dédiés. Ouais. Des échos que j'ai eu, moi, de Twitter aux US, par exemple, apparemment, les locaux sont fermés une fois sur deux aussi pour des économies. Donc les salariés peuvent plus venir tous les jours. Bon, après, ils étaient très télétravail.
Oui, mais ils détestent le télétravail, en plus, Elon Musk. C'est paradoxal, tout ça.
Tout est une question financière.
Alors, juste un mot pour revenir sur Apple, parce que au-delà de la lune de miel maintenant entre Tim Cook et Elon Musk, Tim Cook lui aussi a des problèmes, les amis. C'est des problèmes de riches, mais des problèmes quand même concernant la production des iPhones pour les fêtes de fin d'année. Visiblement, tout le monde n'aura pas l'iPhone Pro ou Pro Max sous le sapin.
Ah bah clairement, hein. Enfin, je sais pas si vous êtes allé voir sur la boutique Apple en ligne.
Apple l'a annoncé de toute façon. Alors il y avait déjà le problème des composants, des machins. Maintenant il y a eu les problèmes de Covid et maintenant il y a les problèmes d'émeutes. Ils sont pas aidés sur la production. Eux l'ont annoncé, ils ont été très clairs avec les gens. L'iPhone 14, notamment Pro et Pro Max, ça va être quand même très très difficile.
Le 14, tu peux. Le normal, il n'y a pas de souci.
Personne n'en veut.
Oui, voilà, c'est ça, c'est le problème.
C'est ça le souci.
C'est là que tu vois le.
Remettons les choses comme on l'avait dit, on en avait déjà parlé ici. Personne n'en veut ailleurs qu'aux États-Unis. Puisque c'est absolument inintéressant de l'acheter. Alors, sauf
aux États-Unis, il y a $700, chez nous, il a quoi, 1000 euros.
Il a plus de 1000 euros aujourd'hui, donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais les gens vont se rabattre dessus, on sait. C'est ça, mais le Pro et le Pro Max, ouais, non, c'est compliqué. Et en plus, ils ont cette situation chez Foxconn et tout qui est plus que tendue.
Bah, c'est chaud.
Humainement, quoi. Donc,
C'est intéressant de voir, parce que du coup, ça permet un peu de voir aussi la petite tambouille interne, comment ça fonctionne et tout ça.
Mais moi, j'adore ça, de voir un peu.
C'est hyper intéressant.
Parce que c'est la joaillerie, chez
ça.
Apple. Hein.
C'est ça, oui. Et en fait, quand tu vas. Alors, cette usine de Foxconn.
Dans les rouages.
Ah, bah oui. Et alors, surtout dans cette usine Foxconn, donc on parle de l'usine de Zhengzhou qui est en fait. Enfin, c'est Apple City, on appelle ça comme ça. Cette ville qui est vraiment bâtie autour de Foxconn et autour de la fabrication d'iPhone. En fait, c'est là que sont produits 80 à 85% des iPhones 14 Pro et Pro Max. Donc c'est là, on voit que le problème est quand même assez sérieux. Et donc ils ont eu des problèmes. Donc Covid. Le Covid a entraîné des émeutes. Pourquoi ? Parce que en fait, les gens qui étaient enfermés
parqués.
Dans leur,
ils étaient parqués. Parqués là-bas.
Exactement. Ils ont essayé de s'enfuir. Il y en a qui se sont enfuis de l'usine. Et tu as vu ce qu'ils ont fait pour continuer à produire à produire. Ils ont fait venir de force des cadres du Parti communiste chinois pour assembler des iPhones. Ce que je trouve incroyable en termes d'ironie historique, si tu veux, c'est vraiment les cadres du Parti communiste
l'objet sont totem du capitalisme. À l'opposé de ce qu'ils font. Quoi,
exactement. Donc c'était marrant, non, c'est pas marrant, mais c'était assez symbolique,
c'était
on va dire.
Paradoxal.
Et après, donc, pour faire en sorte que les salariés restent dans l'usine, Foxconn a promis des primes, mais vraiment des primes très importantes, de l'ordre de 400 euros par mois en plus du salaire, ce qui est énorme.
Hein, parce que évidemment, c'est pas les mêmes échelles que chez nous.
Bien sûr. Et du coup, les salariés sont restés, sauf que les primes n'ont pas été versées à temps, ou est-ce que la direction est revenue sur sa décision on ne sait pas exactement. En tout cas, ça a créé des tensions.
Coup, la police qui s'en est mêlée. Enfin, voilà, il y a eu des rixes, c'était chaud.
Les images, attends, t'as l'impression d'être dans Black Mirror. Je sais pas si tu as vu ces images de policiers
tout en blanc
là, avec les tenues complètes anti-Covid et qui poursuivent les mecs dans l'usine et qui les matraquent.
Mais surtout,
on a les images d'ailleurs si vous êtes avec nous à la télé.
Surtout, ça oblige, parce que rappelons-le, c'est une usine Foxconn, c'est pas une usine Apple, et ça oblige Apple en plus à communiquer sur quelque chose où ils sont très très loin, en disant à intervenir en fait dans une usine d'un sous-traitant pour calmer, justement, éviter les images qu'on a vues là. C'est-à-dire qu'eux, qui pensent être tranquilles et attendre leur livraison d'iPhone, on leur demande socialement d'intervenir dans un pays qui n'est pas le leur, chez un sous-traitant qui est à eux. Mais donc, ils ont été bien embêtés parce que l'histoire des salariés enfermés, c'est quand même pas trop la mentalité chez Apple, la mentalité américaine. Mm-hmm. Donc, il y a plein de choses au-delà du simple problème initialement de Covid et de problèmes de composants. Il va y avoir des petits conflits.
Comme à l'époque où il y a eu les suicides chez Foxconn, c'était un peu la même chose. Tu te souviens? Ou pareil, Apple, ça les avait mis hyper mal à l'aise parce qu'ils étaient en porte-à-faux. Enfin, en gros, on leur demande aussi, c'est leur sous-traitant et on leur demande une.
En fait, et on leur demande d'intervenir parce d'intervenir. Que c'est pour eux, mais ça va être un beau bazar.
Bon, on va voir. En tout cas, ça va être compliqué pour les pros et Pro Max, visiblement.
Noël, là, franchement, avec une croix dessus, je pense.
Ça va être chaud. J'aimerais aussi qu'on fête, chers amis, un anniversaire aujourd'hui. Les 30 ans d'un moyen de communication qui a bouleversé notre quotidien, etc. Alors même si maintenant les jeunes ne savent même plus trop ce que c'est. Quand je dis les jeunes, c'est nous, un peu, on sait encore ce que c'est. Mais les très très jeunes, on va dire.
Très très jeunes, je ne sais pas du tout c'est vrai. Parles,
mais nous, on se souvient quand même, tu vois.
Oui, ouais. Donc on fête les 30 ans du SMS.
Ben oui, 3 décembre 1992, le premier SMS. Et alors vous connaissez l'histoire, parce que en gros, le SMS, j'allais dire, a failli ne jamais voir le jour, en tout cas a failli ne jamais vraiment se développer dans le grand public, puisque c'était chez Vodafone, donc premier SMS envoyé par Neil Papworth, un ingénieur donc de chez Vodafone, qui était, alors le premier SMS était un SMS de Fayot, il faut le savoir, c'était Joyeux Noël envoyé à son patron. Donc voilà, c'était ça le premier SMS de l'histoire, tu vois.
Joyeux Noël, je vous aime.
Un 3 décembre,
ouais, voilà. Bon, bref.
Fayot à mort.
Quoi qu'il était en retard, il était loin comme ça, là, c'est bon.
Et ensuite, la technologie, en fait, va avoir du mal à s'imposer dans le grand public. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée 5 ans plus tard, donc en 97 en France, où 85% des Français disaient que ça ne les intéressait pas, parce qu'un téléphone, ça ne sert pas à écrire, un téléphone, ça sert à parler. Ah oui, évidemment.
C'est vrai.
Évidemment, s'ils avaient su ce qu'ils
allaient.
Mais il faut se souvenir aussi de ce que c'était le fait d'envoyer un SMS à l'époque. D'abord, il n'y avait pas d'interopérabilité au début. C'était d'opérateur à opérateur, déjà, première chose, sur les premiers SMS. Ensuite, c'était payant. C'était 1 franc le SMS, 15 centimes d'euros.
Fortune.
Ou alors c'était avec des bundles. Plus 10
c'était
SMS.
Super content, t'avais 10 SMS par mois.
Exactement.
Tu réfléchissais avant de l'envoyer.
C'est clair.
Hein.
Et puis taper un SMS avec le clavier à touche.
Le T9.
Le T9.
Encore le T9 est arrivé plus tard, les amis. Ouais. Au départ, c'était un enfer.
Parce que t'avais 3 lettres par touche.
Bien sûr. C'est ça.
Donc après, il y a eu le T9. Il y a eu un gars qui a eu cette idée géniale. Ça nous faisait gagner du temps. Mais au départ.
Après, c'est quand même devenu une purge absolue, le T9. Quand tu voulais taper,
c'est
que tu ne comprenais rien de ce que tu voulais taper.
Mais bien sûr.
Donc tu vois, début difficile pour le SMS, et puis finalement, ça a commencé à prendre son envol, et au début des années 2000, c'était vraiment la.
Après, il y a eu les forfaits limités de SMS,
qui ont
boosté tout ça. Et est-ce que vous vous souvenez, moi je me souviens, enfin, à l'époque, j'étais à AMC, et à la fin de l'année, il y avait toujours, le 1er janvier, le nombre de SMS échangés par les opérateurs.
Ouais.
Il y avait aussi cette peur que les serveurs sautent et tout. Enfin, il y avait. Une de l'actualité du JT de 13h le 1er janvier.
Mais bien sûr,
c'était incroyable.
Mais on se souvient tous de ces SMS qu'on a essayé d'envoyer désespérément à minuit une et qui arrivait que des heures et des heures
oui,
après parce que c'était complètement embouteillé.
On a connu
et,
ça.
Et que tu avais des SMS pendant 12 heures, tout le monde les reçoit. Mais c'était génial.
Ouais, et puis ça créait des vexations puisque il y avait des gens qui disaient oh là là, il m'a pas envoyé bonne année.
Ou alors ça créait des bonnes excuses. C'est genre maintenant j'ai pas oublié, c'est juste que le réseau fonctionnait pas.
Regarde,
il arrive
parce que j'étais complètement bourré, hein, vraiment, ça a rien à voir.
Quel scandale.
C'est génial le SMS.
Donc voilà, et alors c'est une techno, c'est vrai que moi j'ai l'impression que ça fait 15 ans, tu vois, que tu as des sujets aussi sur la mort du SMS. Le SMS va mourir. En fait, bah il meurt pas quoi. Enfin, c'est la base. Alors tu as eu effectivement, tu as les messageries instantanées qui évidemment ont pris le relais parce que c'était beaucoup plus pratique, parce que ça fonctionnait sur le wifi et pas seulement en cellulaire, parce que tu pouvais voir qui avait lu ton message, parce que il y avait plein de fonctionnalités supplémentaires. Mais là en fait, il y a des choses qui se sont rajoutées au bon vieux SMS, je pense notamment à la norme RCS, hein, les Rich Communication Services, notamment portée par Google avec Google Message, et qui en fait donne les mêmes fonctionnalités qu'on a sur les messageries instantanées finalement.
Toi qui es sur Android, ça fonctionne chez toi ou pas?
Oui, absolument.
iMessage
aussi, oui, mais
iMessage,
il y a la guerre, quoi. iMessage versus RCS, quoi. C'est toujours Apple qui veut pas.
Ouais, mais tu vois, c'est chacun son truc, c'est clair. Mais c'est la même idée qu'on reste sur du SMS. En fait, c'est la base de la communication. Donc, quand les réseaux tombent, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, quand WhatsApp est en rade ou qu'on ne peut plus envoyer de message ou Messenger, on est quand même bien content de revenir aux fondamentaux du SMS.
Et c'est rigolo parce que c'est souvent les vieilles technologies qui sont les plus robustes.
Ça, c'est vrai.
C'est intéressant, le SMS, vous n'avez pas de 4G, vous n'avez pas de 3G, vous n'avez que simplement du GSM, en quelque sorte. Vous pouvez envoyer un SMS. Vous avez très peu de réseaux, le SMS, ça passe. Donc, c'est quand même, malgré tout, le moyen le plus efficace et le plus robuste pour s'envoyer des messages.
Mais c'est pour ça qu'il est maintenu.
Absolument.
C'est parce que pour les services d'urgence, c'est celui qui passe de base.
Et puis si tu sors un peu d'une vue un peu occidentale du monde, t'as aussi des zones du monde où c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, en Afrique, il y a plein de zones d'Afrique
où t'as pas de data.
T'as pas de data, exactement. Ça coûte moins cher en fait d'envoyer un SMS qui coûte maintenant une fraction de centime d'euros, veux, que de passer par du réseau cellulaire, data, quoi. Il y a tout cet intérêt-là. Et puis on s'en sert aussi de plus en plus. Alors pour tout ce qui est validation, double authentification. Bon, et puis tu as toute la partie marketing et pub aussi qui est un peu pénible.
Ça, c'est un autre problème.
C'est le mauvais côté, c'est vrai.
Le stop. Alors d'ailleurs, parlons de ça. C'est tellement entré dans les mœurs. Vous savez, aujourd'hui, le stop, pour arrêter la pub. Il y a un nouveau système de fraude au stop. On vous dit stop, envoyez à tel numéro. Et en fait, il s'avère que c'est un numéro surtaxé. Voilà, alors perçu. Et donc, mon petit tips, parce que les gens qui font ça ne sont pas encore au point, donc je le dis malheureusement s'il y en a qui nous écoutent aussi, regardez toujours bien la façon dont c'est écrit. Le stop n'est jamais un stop égal numéro de téléphone, mais un stop 2. Et donc, si vous voyez égal, c'est que c'est une arnaque.
D'accord.
C'est la nouvelle arnaque qui sort, qu'on voit fleurir un peu. Moi, j'en ai reçu déjà plusieurs.
Les petits conseils de Melinda.
C'est 5,95 euros aussi.
C'est pas mal. On pourrait faire une chronique et une rubrique spéciale. Très malin quand même, ces cybercriminels. Hein. Franchement, c'est
mais c'est
bonne idée.
En général, c'est l'orthographe et la formulation qui les perd.
Un petit mot aussi sur une appli française. En fait, un nouveau réseau social qui cartonne, qui s'appelle BeReal. Et qui a été nommé, Anthony et Melinda, meilleure application iPhone de l'année par Apple.
Ouais,
c'est une sacrée récompense quand même.
Hein. BeReal, on les connaît, on a eu l'occasion d'en parler déjà dans De quoi je me mêle, mais là c'est vrai que l'actu cette semaine, c'est une consécration. Vraiment, pour le coup, une vraie consécration. Chaque année, Apple fait ses awards, donc récompense les meilleures applications du monde. Et cette année, la meilleure application du monde, elle est française, effectivement. Et c'est ce réseau social. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas BeReal, c'est un anti-Instagram. Hein, on les présente souvent comme ça. Et c'est vrai que c'est une bonne image. En gros, c'est un réseau social où on partage ses photos. Mais, à une petite nuance près, c'est que vous avez une alerte par jour. Vous recevez une alerte. Et là, vous avez 2 minutes pour prendre votre photo. Donc, une photo de face avec la caméra frontale et une photo de ce qui se trouve autour de vous, et vous la publiez. Donc, vous n'avez pas le temps, ou beaucoup moins le temps en tout cas, de vous mettre en scène, de vous maquiller, de truquer, de mettre des filtres, etc. Donc, on est sur de l'anti-artificialité par rapport à ce qui existe sur les réseaux sociaux traditionnels.
Et ça crée des situations intéressantes et amusantes.
Je pense qu'au contraire, ce que les gens ne cherchent pas, moi je vois passer des photos, alors ma fille en plus surutilise ça avec ses amis. C'est un carton total auprès des ados. Et c'est... J'ai envie de dire le pire et le meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il soit vraiment dans une situation où c'est n'importe quoi, où c'est vraiment j'ai été pris en flagrant délit à l'instant T de.
Oui.
Je suis pas coiffé. Regardez mon environnement.
Je suis pas coiffé. Je regarde quand même bien pas coiffé.
C'est ça. Voilà, mon environnement est nul. Et en fait, il y a ce côté complètement anti-Instagram du. Le pire, c'est la meilleure photo.
C'est ça. Ouais.
Et c'est très drôle. Mais les Américains nous envient. de folie, cette application. Ouais.
Et ça marche, ça cartonne aux US.
C'est surtout c'est aux États-Unis et surtout chez les jeunes Américains, ce qui est assez marrant parce que effectivement, il y a eu toute cette enfin, aux États-Unis, il y a beaucoup maintenant cette comparaison entre les réseaux sociaux et les la toxicité des grands groupes de cigarettes, par exemple, tu vois. Et en fait, là, c'est une sorte de remède aussi à ça. Et du coup, t'as une viralité, mais c'est un truc de fou. Et pourtant, l'application a démarré très très doucement. Genre en 2021, il y avait 10 000 utilisateurs et c'est monté à 5 000 ces derniers mois.
C'est top et ça fait plaisir parce que voilà, c'est une appli française.
La seule chose qu'on peut craindre, c'est que d'ailleurs, ça commence à être le cas, c'est que les réseaux sociaux type Instagram les copient.
Mais tout le monde
TikTok notamment. TikTok a été premier à les copier.
Et les appareils photos, c'est Samsung Galaxy, je crois, qui a mis aussi ce système de photos. Enfin, ils y vont tous là. Les fabricants aussi injectent cette technologie de double photo de plus en plus.
Et oui, ça, c'est la dure loi de l'Internet.
Ah oui, c'est ça. Donc, on leur souhaite
tout le monde copie tout le monde.
Mais ils s'en sortent au moins.
Merci beaucoup les amis, c'était top, bien sûr, toujours un plaisir que de papoter tech avec vous, avec Mélinda Davansoulas, donc de la rédaction de Tech & Co, et Anthony Morel, qu'on retrouve le matin sur BFM Business, et tous les jours sur RMC et RMC Story, avec Estelle Denis. Vous restez avec nous, vous avez envie de changer d'enceinte, Wi-Fi, Bluetooth, vous ne savez pas trop quoi choisir, quelles sont celles qui restituent le meilleur son, on voit ça avec notre Labo Fnac et Lionel Costa qui me rejoint tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, la deuxième partie de quoi je me mêle, et on va prendre le temps maintenant pour vous aider à choisir votre enceinte connectée. Pas facile parce que déjà il y a énormément de modèles, beaucoup de marques aussi, les technologies, le Wi-Fi, le Bluetooth, comment choisir ? Faut-il prendre une enceinte qui ne bouge pas à la maison ou alors une enceinte nomade, portable ? On va en parler avec notre expert que vous connaissez maintenant, Lionel Costa. Salut Lionel.
Bonjour François.
Ravi de te retrouver Lionel.
Également.
Responsable du développement du Labo Fnac. Et avec toi, on va faire le point justement, comment choisir son enceinte. En préambule, bien expliquer de quoi on parle. On ne parle pas d'enceintes passives, là, des enceintes qu'on va brancher sur des chaînes Wi-Fi. Là, on parle sur ces enceintes qui sont autonomes, en quelque sorte.
C'est ça, là, on va vraiment parler des enceintes qu'on dit actives. Pourquoi actives ? Parce qu'elles ont un amplificateur intégré. Petit rappel, pour que le son puisse être envoyé sur une enceinte, il faut une amplification électrique. Et historiquement, il y avait un amplificateur qui était dédié à ça, qui ensuite permettait d'envoyer du signal sur des enceintes qu'on pouvait placer n'importe où dans une pièce. Et là, aujourd'hui, on va parler des enceintes actives qui ont intégré ces amplificateurs.
D'accord. Donc, chose importante. Maintenant, c'est pas facile de choisir. Je le disais parce que y a la taille, il y a la connectivité, il y a les marques, la qualité du son aussi. Comment s'y retrouver là-dedans ? Vous testez toutes ces enceintes au Labo Fnac ? Comment faites-vous, tiens ?
Oui, en fait, tout ce qui émet du son, on est en capacité de le tester. Tout ce qui émet du son, donc avec notre chambre anéchoïque qui nous permet de vraiment nous isoler de tout bruit extérieur et de mesurer de manière fiable.
Donc vous avez une pièce qui est complètement étanche en quelque sorte, isolée. Vous mettez l'enceinte, vous avez des micros tout autour,
c'est un peu plus simple que ça. C'est une chambre anéchoïque qui permet d'avoir deux choses. Premièrement, on s'isole du bruit extérieur, mais en plus, elle n'émet pas de rebond. C'est-à-dire que quand on envoie un son, le son vient directement vers le micro et n'est pas projeté dans les parois qui
vont
se
retourner. Donc il y a un micro en face de l'enceinte.
Exactement. D'accord. On a plusieurs micros par rapport à des spécifications de mesure, mais c'est un micro qui va mesurer l'enceinte. Et ce micro-là, évidemment, c'est pas des micros qu'on peut trouver n'importe où, c'est des micros de mesure, de précision, qui nous permettent d'évaluer le son dans tout le spectre audio qu'un être humain est capable d'entendre, voire plus. Ultrasons, infrasons, etc.
Très bien. Et donc après, vous faites vos tests, effectivement. Après, il y a d'autres paramètres importants. Il y a la connectivité, l'autonomie de ces enceintes aussi.
C'est important. Ce que j'allais dire, en fait. C'est que anciennement, les enceintes, on voulait écouter du son, de la musique, voir nos films dessus, les home cinéma, etc. Ça se cantonnait pratiquement à ça. Et les enceintes actives, avec un amplificateur intégré, ont permis justement d'être beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles, en fait, aux usages. Et il y a des nouveaux usages qui sont apparus. Tu as parlé des nomades. Pareil, là, c'est un truc qu'on ne pouvait pas imaginer, ça.
Non. Donc,
une enceinte de qualité, je ne parle pas du transistor radio qui a un bruit un petit peu de boîte de conserve, mais des vraies enceintes qu'on peut balader avec une certaine autonomie. Et pareil, des enceintes qui sont très, très compactes, qui permettent d'avoir un son qui est juste exceptionnel. Qu'on vit dans un studio ou dans un deux pièces, trois pièces, peu importe, c'est un son qui est quand même hyper immersif, qui est vraiment très, très agréable. Ça a vraiment bougé avec le temps et avec les nouvelles générations.
Très bien. Un mot sur la connectivité.
Oui.
Bluetooth, Wi-Fi, parfois les deux.
Oui, bien sûr, et même même les quatre. Pourquoi les quatre ? Premièrement, la connexion analogique. Ça peut arriver encore qu'on veuille brancher un vieux magnétoscope ou une vieille chaîne IFI sur une enceinte.
Une platine vinyle ?
Une platine vinyle, exactement. Et donc, ça, c'est du ce qu'on appelle le RCA, de l'analogique, donc les petites prises blanches et rouges. On a aussi la connectique fibre optique, qui elle est beaucoup plus qualitative, évidemment, puisque c'est du numérique. Le son passe du numérique au numérique vers l'enceinte et passe pas par ce qu'on appelle un DAC qui va convertir le signal numérique en analogique, puis analogique en numérique si on a besoin après. Et on a ensuite évidemment le Bluetooth et le Wi-Fi. Le Bluetooth étant vraiment celui qui est il est partout. En fait, grosso modo, Bluetooth, donc on peut se connecter dessus avec n'importe quel smartphone, c'est assez facile. Le Wi-Fi également, mais c'est beaucoup plus propriétaire. On est sur des réseaux qui sont, en tout cas, des ensembles qui sont plus à s'intégrer dans un ensemble chez soi.
Dans un écosystème, par exemple, le AirPlay d'Apple.
Exactement.
Par exemple. Et puis l'autonomie est moins bonne, donc je crois en Wi-Fi. Hein. Le Bluetooth arrive malgré tout à préserver une certaine autonomie par rapport au Wi-Fi.
En fait, le Wi-Fi a une bande passante qui est beaucoup plus grosse que le Bluetooth. Bluetooth est en plus beaucoup plus petit en termes d'implémentation. Il y a beaucoup plus de, on a beaucoup plus de compatibilité, même d'appairage.
Oui, c'est ça.
C'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin de SSID. Il y a un appairage qui se fait de manière beaucoup plus simplifiée.
Comment choisir son enceinte, Lionel ? Quels sont les paramètres à prendre en compte ? Voilà. Ouais. J'ai envie de m'offrir une enceinte pour Noël. Quelles sont les questions qu'il faut que je me pose ?
La première question que d'ailleurs qu'il faut poser à chaque fois qu'on fait un achat, c'est pour quel usage. Ça peut paraître évident, mais non, c'est pas n'importe quelle question. Est-ce que tu souhaites une enceinte pour chez toi, pour chiller, pour être dans ton canapé.
Qui ne va pas bouger.
Qui
sera branché sur le courant.
Exactement.
Voilà.
Qui va être vraiment fixe. C'est ce qu'on appelle aussi les enceintes domestiques. Ça reste chez soi. Est-ce que c'est une enceinte qui va être plutôt pour aller à l'extérieur, si tu as envie d'aller dans un jardin, dans un parc, avec du son avec toi. Est-ce que c'est une enceinte même que tu souhaites mettre dans ton jardin, dans ta terrasse? Donc, il y a besoin d'une batterie également, mais qui a besoin d'être résistante à l'humidité.
Oui, à la pluie, aux intempéries, etc. En quelque sorte.
Exactement. Donc, il y a ces usages-là qui sont extrêmement importants à prendre en compte avant l'achat.
Ensuite, donc, je posais la bonne question.
Oui.
Qu'est-ce que je vais en faire de cette enceinte ?
Et ensuite, qu'est-ce que je vais écouter dessus ? C'est tout bête, mais si jamais je vais écouter de temps en temps de la musique, une musique d'ambiance, c'est pas pareil si je veux animer une vraie ambiance avec plein de gens. Si je veux faire une soirée où je sais que je vais avoir 30, 40 personnes et que j'ai besoin d'avoir du son et j'ai pas envie de louer tous les 4 matins une enceinte, c'est à prendre en compte aussi.
Aujourd'hui, il existe, il y a un marché qui s'est créé d'ailleurs avec ces boombox. On rentrera dans les détails tout à l'heure. Ce sont d'énormes enceintes avec des couleurs et tout, mais qui font un vacarme incroyable, quoi. Ça fait.
C'est une nouvelle typologie d'enceintes qui existait vraiment. C'était un marché de niche. Et en fait, dans nos magasins, que ce soit Fnac ou Darty, ça explose. Pour plusieurs raisons. Parce que, déjà, ça fait beaucoup de sons. Certaines font vraiment plus du très bon son hi-fi. Et en plus, il y a tout l'aspect design lumineux.
Ouais. Donc ça fait un peu boîte de nuit aussi.
Exactement,
quoi. C'est sympa.
C'est un stromboscope intégré, ça fait du son et ça fait la lumière avec.
C'est intéressant, il faut voir aussi l'évolutivité de ces enceintes. Est-ce que je peux en connecter deux pour avoir de la stéréo? Est-ce que je peux créer un écosystème multi-room, etc., etc. Est-ce que c'est une enceinte que je veux, ou est-ce que je veux créer petit à petit un écosystème.
T'as complètement raison. Il y a par exemple la marque Sonos qui est vraiment arrivée sur le marché sur le côté multi-room. Alors, pour rappel, c'est quoi ? C'est on achète une enceinte, puis une autre enceinte, et les deux vont générer un système hi-fi stéréo. Si j'en achète deux autres, ça va être du 4, du 5, du 7.1, etc. Mais ça, il faut que ce soit compatible dans l'écosystème de la marque. La compatibilité multi-marque, c'est encore un peu compliqué. Il y a des applications tierces qui permettent de le faire, d'appairer plusieurs Bluetooth ensemble, mais il y a la latence, c'est-à-dire la vitesse entre le moment où j'envoie le signal de musique et le moment où la musique est restituée, il peut y avoir un décalage. Alors, si j'ai des haut-parleurs ou des enceintes qui n'ont pas le même décalage, je vais avoir un effet bizarre de son. Donc, effectivement, il y a tous ces usages-là qui vont permettre de me faire rentrer dans qu'est-ce que je souhaite. Et c'est pour ça qu'à la Fnac, en tout cas, on a quatre grandes catégories. On a, pour les enceintes actives, on a les enceintes domestiques sans batterie.
Oui.
Les enceintes, mais qui sont connectées Bluetooth, Wi-Fi, etc. On a les enceintes qui ont une batterie que l'on peut déplacer, mais qui sont assez grosses. Hein, je pense même au Boombox, par exemple. On a aussi les enceintes avec batterie, qui, elles, on peut déplacer, qui font moins de 2 litres et moins de 2 kilos, qu'on peut emmener chez soi assez facilement. Et on a évidemment donc les stations, les Boombox, qui sont vraiment faites, ça,
pour faire la fête.
Pour faire la fête, pour faire des soirées, pour faire de l'ambiance. On est vraiment sur ces catégories-là.
Paramètre aussi à prendre en compte, quel type de pièce on va sonoriser. On a un studio de 15 mètres carrés, ça ne va pas être la même enceinte que si on a un salon de 35, en fait.
Ce qu'on mesure, dans tout ce qu'on mesure, hein, il y a plusieurs éléments, je ne suis pas revenu dessus, mais évidemment, qu'est-ce qui fait la qualité du son? Il y a la partie réponse en fréquence, c'est-à-dire est-ce que l'enceinte est capable de délivrer des graves, des médiums et des aigus de manière équilibrée, qui ne suraccentue pas telle ou telle fréquence? Est-ce que je peux mettre de la puissance sans aucune distorsion? Et c'est là où on est vraiment différent de ce que des gens peuvent dire sur Internet en poussant au max le volume. Waouh, génial, ça fait du 120 dB. Oui, mais 120 dB avec un son qui est horrible.
Complètement distordu, saturé.
Donc, ça on le mesure et on dit à quel niveau on arrive à atteindre le son, 108 décibels pour les certaines des meilleures que nous avons, à un taux de distorsion donné. Et là, sur la taille de la pièce, il y a la taille et la forme. En fait, c'est doublé. Si tu es dans une pièce de 20 mètres carrés en couloir, c'est pas la même chose que 20 mètres carrés en cercle complet. On sait que à partir du moment où tu dépasses les 80 décibels, tu as du son pour un studio de 30 mètres carrés confortable. C'est pas pour être en boîte de nuit, c'est pas mal.
Et ça, vous le dites au labo? Alors, cette enceinte va délivrer 80 décibels, oui. Donc ça veut dire que votre petit studio, ça sera nickel, etc.
Exactement. Dans notre comparateur, dans le comparateur du labo Fnac et sur les sites Fnac.com et l'éclaireur Fnac, on donne ces informations pour justement donner toutes les infos, le maximum d'infos aux utilisateurs et aux clients. Et ensuite, ce qu'on dit aussi, c'est que si jamais vous avez des besoins exceptionnels de puissance parce que vous savez que vous allez sonoriser une pièce de 50 mètres carrés, l'information du 108 décibels, 110 décibels, on va le donner. C'est-à-dire que on ne dit pas que plus c'est puissant, mieux c'est, parce que tout dépend de son usage. Mmh. Par contre, il faut avoir le potentiel. Une enceinte qui est capable de faire du 108, du 112, du 120 décibels, on sait que elle atteint un niveau de qualité à ce niveau-là qui nous permet de dire qu'elle est puissante.
Oui, c'est ça. Et on peut elle en a sous le pied, quoi.
Elle en a largement sous le pied. On ne fait pas une mesure, je le dis parce qu'on m'en avait parlé, on ne fait pas la mesure du volume minimal. D'accord. Peut-être qu'on le fera, mais parce qu'il y a des gens qui aiment avoir le côté ambiance un peu zen,
oui,
etc.
Bien sûr. Et
qui
veulent avec une bonne qualité, un bon qualité. Son enveloppant, pas trop fort.
Exactement. Et en fait, certaines, quand on met au minimum, c'est déjà très fort.
C'est déjà très fort.
Donc, et ça, on ne le mesure pas. Mais voilà, on donne en tout cas un potentiel de puissance et d'harmonique qui fait que les gens, s'ils veulent choisir de la qualité, ils peuvent se référer à nos mesures sans aucune interprétation arbitraire de « ça, c'est mieux avec plus de boum-boum », etc., etc.
On vous prépare d'ailleurs sur le site de Tech & Co, bfmtv.tech, bfmtv.com/tech, un comparatif d'enceintes avec vous d'ailleurs, et on aura l'occasion d'en reparler. Les top produits, Lionel, quelle est la sélection du Labo Fnac en cette fin d'année 2022 en matière d'enceintes?
Alors, je parlais des catégories. Hein. Là, je vais parler de l'enceinte active Bluetooth classique domestique, hein, qui ne se déplace pas, qui reste chez soi.
Qui est grosse? Enfin, c'est un...
Non, même pas. Elle est pas si grosse que ça. Celle-là, elle fait... le terme, c'est 20 litres. C'est pas, c'est entre 12 et 20 litres selon les références. C'est la marque De Vialet. Alors, on les connaît bien, De Vialet. C'est pas une grosse surprise, hein, mais la De Vialet Phantom 1, 103 dB et 108 dB, c'est le nom du modèle, sont vraiment très bons dans cette catégorie-là. Pour 2 300-3 000 €. Voilà. On est quand même dans du produit... avec beaucoup de technologie, beaucoup de technicité, mais avec un certain budget.
Là, c'est Bluetooth et Wi-Fi.
Oui, exactement.
Ouais, parce qu'à ce prix-là,
Alors, il faut, si on veut se faire plaisir, si on achète une seule enceinte, on n'a pas un son stéréo.
Ben non.
On a un son, c'est une seule source.
Qui, moi, me rend fou dingue. Fou dingue. Non, mais vraiment.
Et donc, il faut en acheter deux pour avoir cet effet stéréo. Et là, c'est exceptionnel. Mais c'est le budget qui va avec.
C'est-à-dire que là, on est à 4 000...
On peut aller jusqu'à 6 000, ouais. Ça fait un bel ensemble.
Et là, on sonorise une grande pièce.
En fait, on double, donc on passe sur la meilleure, on passe à 115 décibels. 115 décibels, vous avez une pièce de 100 mètres carrés, vous avez
sans aucun son.
Hein,
sans aucun problème.
C'est sans aucun problème.
Bon, voilà. Là, il faut casser la tirelire quand même. Hein.
C'est ça.
Voilà.
Après,
donc,
dans les enceintes portables, donc, qui ne sont pas forcément à mettre à se balader dans les transports en commun, etc., ça reste assez volumineux. Ce qu'on appelle donc sur batterie uniquement, on a la Harman Kardon. la Go Plus Play, qui elle est à 250 euros. C'est, pour donner un ordre d'idée, c'est 3,4 kg. Donc c'est vraiment, voilà, ça reste portable. Hein, c'est pas non plus un truc dur à transporter. Et pour avoir un ordre de comparaison, là où les deux Vialet faisaient de 103 à 108 décibels, cette Harman Kardon, elle fait 97 décibels. Donc à 60 Hz, donc dans les basses. Donc 97 décibels, c'est déjà pas mal. Hein,
c'est déjà pas mal.
Ah oui, 100 décibels, c'est déjà beaucoup. Donc 97 décibels, on est vraiment pas mal. Dans la catégorie enceinte nomade.
Tu ne nous as pas donné le prix.
Ah, pardon. Alors, celle-là, elle est à 250 euros. J'avais dit le prix, mais c'est pas grave.
Bah pardon, excuse-moi.
C'est pas grave. Elle est à 250 euros.
D'accord.
Enfin, lorsque je sais qu'il y a des offres qui vont se faire pour la fin d'année, qui peuvent peut-être
être intéressantes.
Voilà,
et là, on peut en appairer, on peut en mettre deux.
La Go Plus Play, j'ai un doute. Je veux pas dire de bêtises. D'accord. À vérifier, mais ça, on donne cette information-là.
Bien sûr.
Parce que c'est vrai que l'appairage, il est souvent propre à des modèles spécifiques dans une même marque. C'est pas forcément toutes sont appairables. Ensuite, on a les enceintes.
Oui, pardon. Enceintes nomades.
Ouais, oui, enceintes nomades. Donc, on a nomade, c'est à moins de 2 kilos et moins de 2 litres. Ça, c'est nous qui l'arbitrons comme ça. Alors, pour donner un ordre d'idée sur les volumes, parce que s'exprimer en litres, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment imaginer, notre limite à nous, c'est une bouteille de 2 litres. Vous voyez le volume d'une bouteille de 2 litres, c'est ça la limite. Si c'est au-dessus de ça, c'est plus considéré comme une enceinte nomade. Donc, la Marshall Stockwell 2 à 200 euros. Qui nous délivre 12 heures d'autonomie. 12 heures d'autonomie à une puissance assez élevée.
Et là, le rapport, on va dire, volume, qualité de son.
Exactement.
Est très bon.
C'est ce qu'on appelle, nous, le rapport puissance-volume.
Ouais,
et on a dans notre radar, on indique cet élément-là, parce que, évidemment, pour déplacer du son, il nous faut normalement du volume. Une marque, un modèle qui arrive à délivrer un son puissant avec très peu de volume, c'est une vraie performance technique.
Et puis on termine par, là si on veut tout casser à la maison et se mettre à dos les voisins.
C'est ça, ou les parents si jamais.
C'est ça.
on est étudiant. C'est donc la catégorie Boombox et High Power, la JBL Partybox 310. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 82 litres, donc 82 bouteilles d'un litre, hein, c'est assez volumineux.
Là c'est costaud quand même.
C'est 18 kilos.
Là, on ne la met pas dans le sac à dos celle-là. Hein.
Tu la portes et tu tombes, elle tombe dessus. Elle a d'ailleurs une batterie intégrée et on la mesure à 21 heures d'autonomie.
C'est énorme.
Plus c'est grand, plus tu mets des batteries grosses.
Et donc plus tu as d'autonomie.
Exactement.
Ça,
et tu délivres quand même 108 décibels. Là, on est à 579 euros, donc 580 euros. À moins de 600 euros, tu as un truc à 108 décibels à 60 Hz. T'es quand même très, très bien.
Et la qualité du son, malgré tout, est correcte ?
Oui, on a des 5 étoiles. Oui, complètement.
Ouais.
Et là où il y a un danger, c'est vrai, c'est sur les effets audio, les égaliseurs, où souvent, ces marques-là veulent parler à un public petit peu friand des basses. Je répète, nous mesurons la fidélité. C'est-à-dire que nous, quand on envoie un certain niveau dans les fréquences basses, médium, aiguës, on veut ce niveau-là. On ne veut pas plus ou moins.
D'accord.
Et c'est là où on le mesure.
La JBL Partybox 310.
Ouais, la JBL Partybox 310 à 580 euros. Je fais juste un petit aparté sur les stations audio 360 degrés.
Oui.
C'est une nouvelle famille, une nouvelle manière d'écouter du son. C'est-à-dire qu'on pose un petit plot sphérique et ça émet du son partout. Et donc, on a mis en place, Régis Bertrand, qui est responsable des tests audio, a mis en place un protocole pour évaluer cette enceinte-là avec un espèce de plateau tournant. On va la tourner, on va l'enregistrer comme ça, chaque slot, et on va voir, selon les fréquences, on n'a pas le même son. C'est-à-dire que dans les graves, ça se répartit partout, mais dans les aigus,
bien sûr.
Certaines, qu'on a l'impression d'avoir un haut-parleur 360 degrés, pas du tout.
Pour conclure, sachez que la FNAC est en train de tester un nouveau concept de bulle acoustique qui est très intéressant.
Pour ceux qui ont la chance de venir à Paris, allez-y.
Je crois qu'il y a une autre FNAC à Bordeaux aussi, où là on rentre dans une espèce d'auditorium en quelque sorte.
C'est exactement.
Et
ça.
On peut tester ce qu'on veut en termes d'enceinte dans un environnement qui est super, quoi.
Et c'est dédié. Chouette. C'est-à-dire que vous pouvez n'importe qui peut y aller. Il demande juste au vendeur et il sera dans une écoute VIP. Il écoutera les musiques qu'il souhaite, parce qu'il y a un accord aussi avec différents sites de streaming audio, avec des qualités de son non compressées. On a vraiment un spectre très large.
C'est chouette.
C'est vraiment fantastique, ouais.
Merci Lionel.
Merci à toi.
Voilà pour votre petite sélection d'enceintes pour ces fêtes de fin d'année. Lionel Costa, donc responsable du développement du Lab Ofnac, pour terminer ce De Quoi Je Me Mêle. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous retrouver chaque week-end. Portez-vous bien, profitez bien de ce week-end. Justement, on sera là la semaine prochaine. De Quoi Je Me Mêle en audio, bien sûr, en podcast audio, et puis la version vidéo qui vous attend sur la chaîne Tech & Co et sur YouTube. À la semaine prochaine.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.